ça va, mais tu as grâce de Dieu, ça va.
Maria qui est en pleine forme.
Eh bien oui.
Par la grâce
avec
de Dieu.
Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Je suis en pleine forme. Je peux dire que je suis en pleine forme.
Est-ce que c'est un vœu pieux ou bien c'est la réalité?
Est-ce que c'est?
C'est un vœu que tu fais ou bien c'est la réalité?
Non, c'est la réalité. C'est l'œuvre de Dieu. Je suis en bonne forme. En pleine forme, je dis que c'est grâce à Dieu.
Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alors, Maria, de nos jours, actuellement, à l'heure où je te parle, à l'instant T, tu connais Christ? Tu as reçu Christ dans ta vie, mais on va un peu remonter dans ton passif pour voir quelles sont les circonstances qui t'ont conduit à Jésus-Christ. Est-ce que tu es prête, Maria, ce matin?
Oui, je suis prête, oui.
Alors, dis-nous, tu es d'origine foyalaise ou bien tu es une terre rapportée, comme on dit?
Non, je suis foyalaise, oui.
Tu es foyalaise d'origine?
Oui.
D'accord, ça a toujours été le cas?
Toujours, oui.
Tu viens d'une famille nombreuse, famille 15-20 enfants?
Oui, une famille nombreuse. Nous étions 8.
8 quand
et
même.
8, je dis 10 parce que mon père a eu deux enfants. Deux enfants qui n'étaient pas les enfants de ma mère.
Ah oui.
Mais ma mère, c'était une femme de grand cœur, et qui a pris les deux autres enfants de mon père, qui ont été élevés avec nous, et d'ailleurs qui portent le nom de mon père.
Attends.
Ce sont des demi-sœurs et tout. Ce ne sont pas mes demi-sœurs, ce sont mes sœurs.
D'accord.
On ne peut pas avoir de demi-sœurs ni de demi-frères.
Attends, ce que tu dis là, c'est...
Alors, nous sommes 10.
On est bien Martinique, parce que là, tu me dis que ta maman a accepté de prendre les enfants de l'autre dame et de les élever.
Oui. Elle a accepté.
Et l'autre dame, qu'est-ce qu'elle a dit?
L'autre dame, parce que les enfants étaient en souffrance. Le beau-père les battait et tout. Mmh, Donc ma mère a accepté de les prendre chez elle et de les élever comme si c'était ses enfants.
D'accord. Je pense que ton papa a été content, était content, était sidéré.
Ah oui,
était... ouais.
Il était comblé, ses enfants étaient avec lui, tous ses enfants. Donc...
Et vous ne considérez pas vos, entre guillemets, demi-frères, demi-sœurs comme des demi-frères?
Non, pas de demi-frères, pas de demi-sœurs. Ce sont mes frères et mes sœurs et les sœurs de mes deux sœurs qui ne sont pas mes sœurs. Je les considère aussi comme mes soeurs, puisqu'on a vécu tellement bien une famille, tellement... Bon, je dis une famille soudée jusqu'ici, les deux soeurs sont déjà mortes. Et j'ai encore de très bons rapports avec les soeurs et les frères de mes soeurs qui ne sont ni mes frères ni mes soeurs.
Ah ouais, quand même.
Ah oui.
Tu as d'excellents rapports avec eux.
Très bons rapports.
D'accord. D'accord, ok. Donc, ton enfance a été comment? Une enfance joyeuse, une enfance tumultueuse, ça a été comment?
Non, j'ai une enfance joyeuse. Je ne peux pas dire que j'ai connu la souffrance, la misère. Non, une enfance joyeuse. Mm-hmm. Mais je disais tout le temps, quand j'étais petite, je disais tout le temps, il y a toujours du monde à la maison, toujours des enfants. Parce que ma mère était de nature, elle avait toujours des enfants. Qu'elle prenait une enfant en difficulté, je prends ses deux enfants, je les mets à la maison. Une telle travaille, elle ne peut pas garder ses enfants. Elle prenait les enfants, les gardait à la maison et tout, elle élevait ces enfants-là. En ce temps-là, on n'avait pas beaucoup d'espace. Toi, tu te couches là, tu te mets là. Mm-hmm. Et il faut pas broncher, leur dire non, va chez toi. Non. Il n'y avait pas ça. Là, vous devez vous entendre, voilà, les plus grands veillent sur les plus petits. Et j'ai vécu dans une famille vraiment, une famille fournie.
Une famille nombreuse, mais une famille ouverte quand même.
Que mon père était entrepreneur et tout, et les gens me disaient après la mort de mon père, ah oui, et papa, on t'a qu'à travailler, papa, on t'a qu'à toucher l'argent, et pas quitter à Ébazot comme militaire. Je répondais, mon père ne m'a pas laissé d'héritage, il ne m'a pas laissé d'argent, mais il m'a appris ce que c'est que l'amour.
D'accord.
Ce que c'est que l'amour du prochain et l'entente. Alors pour moi, c'est une très grande richesse.
C'est plus que l'or et l'argent, ça.
C'est plus que l'or et l'argent.
Donc revenons un peu sur ta mère. C'était quel genre de femme? Parce que apparemment, ton père était un père rempli d'amour, mais il a fait des enfants dehors, on va dire ça comme ça.
Oui, oui, oui.
Donc ça veut dire que
avant
c'est
avant son mariage.
Avant son mariage, d'accord, avant d'accord, son d'accord. Mariage, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Et ta maman est venue après.
Ma maman est venue après. C'est pas trop leur histoire, mais je sais que parce que comme ils sont des, c'est moi qui suis la dernière, c'est-à-dire.
Ah oui.
Je suis la dernière, donc je connais pas toute l'histoire. Je connais ce que maman nous a raconté.
D'accord. Enfin, l'image que tu retiens de ta maman, c'était une femme avec un grand
maman,
cœur.
Oui, maman, c'était une femme grand cœur. Oui.
C'était une espèce de mère Teresa.
Oui. Pour elle, il fallait toujours aider, toujours donner.
Toujours aider. Ah oui.
Oui. Subvenir aux besoins de ses proches, la voisine n'en a pas, mais apporte ça pour elle, il faut partager. Ah oui, ma mère, c'était une femme comme ça. Mon père aussi, d'ailleurs.
Ton père était comme ça aussi.
Ah oui, tous les deux.
Tous les deux. Ah, ouais.
Tous les deux.
D'accord, ok. Et comment était ton père par rapport aux garçons? Il y avait des filles.
Oui.
Et parce qu'on dit généralement que les filles sont plus proches de leur papa que de leur maman. Est-ce que c'était la réalité pour toi?
Non, c'était pas la réalité, parce que maman, elle était beaucoup plus dure que papa. Maman était beaucoup plus dure.
Maman était
beaucoup plus dure.
C'est rare ça quand même.
Papa, papa était un petit peu plus
doux.
Mais maman, non, un petit peu plus doux. Mais maman, non. Oh là là. Il y avait beaucoup d'amour. Ah. Mais quand il fallait
sanctionner.
Sévir, elle n'avait pas à dire que je manquais à ton papa ou je. Non. Ah non, c'est elle qui prenait le bâton. Hein.
Ah d'accord. Et ton papa disait quoi?
Il disait rien.
Ah.
Il ne disait rien. C'est toi qui es là, c'est toi qui commandes, c'est toi qui es là avec eux, tu corriges. Pas besoin d'attendre que j'arrive pour me dire, voilà.
Attends, par exemple, si tu demandes quelque chose à ta maman, elle te dit non, tu vas vers ton père. Est-ce qu'il te dit non aussi, ou bien est-ce qu'il dit maman Hadou, non, c'est non?
Alors, ce que j'avais demandé à, si maman dit non, c'est même pas la peine de demander à papa, parce que papa, quand il dit, si maman dit ou non, il dit ou non. Mon papa, il dit oui, c'est non, c'est non. Si maman dit ou non, moi-même, moi, quand il dit ou non aussi.
Ah bon?
Voilà. Uh-huh. Et oui. C'était même pas la peine d'aller.
Même pas la peine d'essayer.
Non, c'était pas la peine d'essayer. C'était non, et puis c'est tout.
C'est non, et puis c'est tout.
Oui.
D'accord. Donc, tu avais combien de frères, combien de sœurs, tu m'as dit?
Alors, nous étions 10. Il y a eu Paul, lui, Joseph.
Mm-hmm.
J'avais 4 frères.
4 frères?
J'ai eu 4 frères et 6 sœurs.
Dans ce cas-là, ça fait 10 plus 2.
Oui, ça fait 10.
Ça fait 10 plus 2, ça fait 12
non,
personnes.
Nous étions 8. Et plus les deux, ça fait 10, oui.
Les deux, quand tu parles de deux...
Maman a eu 8 enfants avec papa.
Oui.
Oui. Et puis les deux autres qui étaient déjà, les deux sœurs, donc ça fait 10, qui ne sont pas de maman, nous sommes 10.
D'accord, j'avais bien compris. Mais ce que je voulais te dire par là, c'est que les 10 enfants plus les parents, ça fait 12.
Oui, ça faisait 12. Ah oui, ça faisait 12 à la maison.
Vous aviez un château alors?
Oui, mais et même je te dis 12, mais il y avait l'enfant du les deux l'enfant de la sœur de papa qui pouvait pas vivre avec sa maman par rapport à son beau-père, donc il était à la maison aussi.
Ah, il était à la maison aussi.
Oui, oui.
D'accord.
Il y avait l'autre qui était malade, qui revenait de l'hôpital et qui n'avait personne, eh ben il fallait le prendre à la maison.
D'accord.
C'était quasiment
un foyer de charité, là.
Oui, on vivait, oui. Et il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait de la place pour tout le monde, oui.
D'accord. Vous avez grandi comme ça
Oui.
D'accord. Et 12, 13, 14 personnes dans la maison. Mais,
oui.
Mais papa avait les moyens de nourrir tout ça de personnes.
Ah, en ce temps-là, tu sais, en ce temps-là, c'était... Oui, c'est vrai, papa travaillait. Donc... il pouvait subvenir aux besoins de la famille. Et maman faisait ce qu'elle pouvait. Par exemple, elle faisait des gâteaux, faisait des petits gâteaux à la maison, les enfants passaient acheter et tout. Elle essayait de subvenir aux besoins de la famille comme elle pouvait. Elle nous disait tout le temps, pas manger, pas passer boy, parce que ça, c'est l'argent pour nous acheter un pain. Alors, non. De ce côté-là... papa pouvait, il subvenait, et puis il y avait le cousin qui travaillait. Il était déjà quand même assez grand, le neveu de papa qui travaillait, et qui quand même portait sa part aussi pour aider pour le ménage, pour acheter, pour boire et manger.
D'accord. Mais entre vous, entre les enfants, est-ce qu'il y avait une bonne cohabitation?
Très bonne cohabitation. Très bonne. Le neveu est parti, c'est quand il a vraiment commencé à travailler, où il pouvait partir, s'acheter sa voiture. Il est parti, il a cherché une maison. Et puis voilà, il est parti comme ça. Mais on ne sait jamais, il n'y a jamais eu d'histoire entre nous.
Est-ce que les parents se discutaient devant vous? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des conflits entre les parents?
Je n'ai jamais entendu mon père se disputer avec ma mère. Je n'ai jamais connu ça.
Jamais vu ça.
La seule chose que je vous rappelle, que maman, quand elle entendait une belle musique, quelque chose à la radio, eh bien, mon père qui était assis en train de lire son journal, elle le prenait par la main, viens, allons danser. Et
ah
devant
bon?
Nous, elle le prenait, elle dansait. Ah, ça m'a marqué.
Elle dansait à la maison, comme ça, devant vous, à
oui,
des...
elle dansait comme ça, devant nous, allons danser.
Eh ben, tu sais, mes parents avaient ce qu'on appelle un électrophone. Un électrophone à la maison.
Oui.
Le soir, ma mère mettait le disque, et puis à deux, elle dansait avec mon père. On était assis à terre en train de les regarder. C'était
oui,
beau,
oui.
C'était merveilleux, c'était extraordinaire.
Ah.
Mais on voit plus ça maintenant dans les maisons. TikTok, Facebook.
Vous regardez des portables, tout ça, mais ça m'a marqué tellement que j'ai trouvé que c'était quelque chose de formidable. Que quand je me suis mariée avec Simon, il y a des moments où j'étais à la cuisine, et puis j'entendais quelques morceaux à la télé, à la radio, je disais, mais ah, c'est bon, ça c'est bon. Je le sais ce que je faisais, et je viens le prendre par la main, je lui dis, allons danser. Il me dit, ah, qui doit faire ça? Je dis, mais oui, Simon, allons danser. Et je le prenais, on dansait, après je dis, bon.
Simon, c'est ton mari, hein.
Je retourne à mes affaires.
Sinon, Simon, c'est ton défunt mari, il faut le dire, hein.
Comment?
Simon, c'est ton défunt mari.
Oui, c'est mon défunt mari.
Oui, moi je le sais, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas. Parce que
oui,
comme
oui,
tu as dit Simon.
C'est mon défunt mari, oui.
Oui.
Donc j'ai gardé ça et j'ai.
Alors, dis-moi, pour avancer un peu, donc c'était, tu as été élevé parmi tous ces enfants-là, avec
oui.
un père quand même assez aimant, une mère
oui.
qui était poteau mitant d'après ce
ah
que
oui.
j'ai compris.
Ah oui.
Alors, tu as grandi, à quel âge tu as quitté la maison familiale?
Alors, il faut dire que je n'ai jamais, j'ai pas quitté la maison familiale, puisqu'ils sont morts, je me suis occupé d'eux.
D'accord.
Ma mère était devenue grave, mon père a été malade et il a été... Il a une embolie pulmonaire, donc ça a duré quelques semaines, et il est mort.
Mm-hmm.
Et ma mère étant déjà, en ce temps-là, on ne connaissait pas la maladie d'Alzheimer, ma mère étant déjà atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc je travaillais, et pendant que je travaillais, c'est mon père qui s'occupait de ma mère, parce que tous les frères étaient partis, les autres étaient partis en métropole, ils n'étaient pas ici, ils étaient en France. Donc j'étais la seule à m'occuper d'elle avec mon père. Et mon père, il est mort, et ma mère, elle est restée. Et elle est morte trois mois après mon père.
Trois mois après. Dans la même année.
Trois mois après mon père. Dans la même année. Ma mère est morte en juin. Mon père est mort en septembre.
Ah, waouh.
Ouais, ouais.
Wow, ça fait ça, okay. c'est quand même assez
ah
la
oui,
même année tu, dans la même année tu perds ton père.
Ça
a été dur pour les enfants, pour vous
ah
tous
oui,
alors.
Ça a été dur, ça a été un grand choc. Moi,
et tu avais quel âge lorsque tes parents sont décédés?
J'avais 36 ans.
36 ans.
Mmh. Mmh.
Ça a été un moment douloureux de parce que perdre ses deux parents dans la même année, c'est pas
oui,
facile.
Oui, oui. Ah, oui, ah oui.
Mais comment ça a été pour toi après la perte de tes deux parents? Tu as été seule
après
à la maison.
Après la perte des parents, bon, quand on a vécu avec autant de monde autour de soi et que l'on se retrouve seul, quand on sort du travail, qu'on voit qu'on avait toujours un père qui était assis là en train de t'attendre, ne sachant pas si tu as mangé, si tu as mangé et tout. Et qui t'attendait, il était là, même si j'avais déjà mangé, j'étais obligée de partager le repas avec lui parce qu'il m'attendait pour manger.
Ah bon?
À 14h.
Ah, ton père t'attendait pour manger?
Oui, il m'attendait pour manger. Mm-hmm. Donc, quand je me suis retrouvée seule, les deux étant décédés, et quand on connaît une maison qui n'est jamais fermée, tu n'as jamais connu ce que c'est que d'ouvrir, de partir avec ta clé et puis de revenir et d'ouvrir. Ça a été dur pour moi les premiers temps de rentrer, d'ouvrir la maison.
Mm-hmm.
Ça a été dur pour moi. Ah oui.
Ça n'a pas facile.
Vraiment dur pour moi.
D'accord. Et tes parents leur religion, ils étaient catholiques, tes parents?
Alors, ils étaient catholiques.
Fervent catholique. Alors, je sais que toi aussi, tu étais une fervente catholique, me semble-t-il.
Ah, fervente catholique.
On appelle ça ravette l'église, hein?
Là, avec l'église, et j'étais même à la chorale. Je faisais partie de la chorale.
Ah ouais. Quand on a dit autant Baro Blabéa, vraiment.
Monteur Baro Blabéa, je me suis mariée, ça fait, ça fait 9 ans, oui, ça fait 9 ans que je suis mariée, 9 ans. Et je n'étais pas encore, j'avais pas encore crise dans ma vie.
Ah d'accord.
J'étais encore à la chorale.
Quand tu t'es marié?
Oui, quand je me suis marié à l'église catholique.
Alors, qu'est-ce qui a poussé une fervente catholique à quitter sa religion de prédilection et à venir à Christ?
Alors, parce que j'ai une fille qui a connu Christ avant moi, qui a donné sa vie à Christ et tout, qui a choisi Christ comme sauveur.
Quand tu dis une fille, c'est ta fille de chair.
Ma fille, oui.
Oui.
Mmh. Elle a 44 ans cette année.
Mmh.
Ma fille, alors elle me disait tout le temps, maman, viens avec moi au culte. Alors je lui disais, ah, mais c'est embêté, moi, comme ça, vini. Moi, dans l'église, mais il y a mes filles, vini, fais qui ça. Moi, quand il me dit, mais non, je vais venir un jour, je viens. Et je n'avais jamais été. Maman, viens, tu vas voir, viens juste pour me voir, viens, tu vas, ça va te donner une idée, tu verras. Et je suis allée, bonjour, je dis bon, j'y vais. Je suis allée, et je venais de me marier, je me suis mariée en 2016, et ça s'est passé en 2017.
Mmh.
C'est passé en 2017. Je suis allée et j'ai regardé le premier jour, mais c'était toi qui étais là, qui faisais.
C'était moi?
Oui, c'était toi, oui.
Ah,
oui.
C'était toi, Scott Hotel?
Au Scott Hotel, oui.
D'accord.
Alors, j'ai dit bon, ben. Et puis elle m'a dit, mais maman, tu sais, parce qu'il y a eu un enterrement. Il y a eu un enterrement d'un frère qui est
décédé.
Deux frères, l'enterrement, c'était à la Mena. Mmh. Et c'est toi qui as, toute la cérémonie a été faite par toi et tout. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. En moi, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. C'est au moment de l'évangile et tout. Et je ne peux pas dire quoi, mais j'ai ressenti quelque chose. Et le dimanche d'après, je dis, bon, ben, elle me dit, oui, c'est le pasteur qui était à l'enterrement, là, c'est ce pasteur-là qui est là. Alors, je lui dis, ah, je viens. Et je vais, je vois que c'est le même, que c'était toi. Et je regarde, ce jour-là, pour moi, j'étais au spectacle. Hein. Je dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette église? Les gens qui sont en train de danser, mais c'est quoi? Mais c'est quoi là? Je suis pas à l'église. Quand les gens dansent comme ça, mais on danse pas comme ça dans une église.
Ah,
c'est
oui.
Quoi ça? Je ne me retrouve pas, les gens. Je regarde les gens qui ferment les yeux, qui sont là. Enfin, je regarde, j'étais au spectacle. J'observe chaque personne. Je suis reparti. Le dimanche d'après, je n'ai pas été. Et puis quelque chose me pousse, me dit, mais oui, le troisième dimanche, vas-y, je vais. Je vais le dimanche d'après. Et je m'aperçois que ce que j'avais vu la première fois, l'image que j'ai eue la première fois, elle était différente. Alors je dis, mais si les gens ferment les yeux, c'est pas pour faire joli. C'est parce que il y a vraiment quelque chose, il y a une pénétration, il y a quelque chose en eux qui voilà, parce qu'on ferme les yeux quand on s'avoue, quand on a quelque chose qui sort du fond du cœur. On ne veut rien voir ce qui se passe autour de soi. Et on ferme les yeux parce que on est tellement pauvre, on est tellement on est collectionné. On est collectionné avec Dieu à ce moment-là. Et puis, j'ai assisté et tout. Là, j'ai essayé de comprendre. Après, le dimanche d'après, ma fille m'a dit, moi, je ne pourrais pas, je ne vais pas. Je lui ai dit, tu n'es pas encore habillée. Maman, tu vas aujourd'hui? Je dis oui, mais je ne pourrais pas aller, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Alors, je lui dis, ah, qu'est-ce que je fais là? Alors, elle me dit, mais je vais appeler Thierry. Thierry, c'est mon neveu qui jouait de la batterie en ce temps-là.
Oui.
Il faisait partie de l'orchestre. Alors, Thierry me dit, mais Tati, je viens te chercher. Et me voilà partie. Et le dimanche après, je ne me suis pas arrêtée. J'ai dit, Karine, tu n'es pas encore prête? Maman, tu vas? Elle dit, oui, je vais. Et j'ai commencé. Et ce jour-là, il y a une prédication et tout. Et il y a eu une parole qui m'a touchée. J'ai dit, mais une parole qui m'a touchée. Et je suis restée là. Et j'ai entendu. J'étais là, j'étais à ce moment-là, c'est moi qui avais les yeux fermés.
Ah bon?
J'avais les yeux fermés, c'est moi qui avais les yeux fermés.
Au début, tu jugeais les gens qui avaient les yeux fermés, mais maintenant c'est toi qui as les yeux fermés.
C'est moi qui avais les yeux fermés. et à ce moment-là, j'ai compris pourquoi les gens avaient les yeux fermés. Et les yeux fermés, et à un certain moment, j'entends quelqu'un qui me dit, Maria, tu vois là où tu es? Cette place que tu es, la place là d'où tu es assise, c'est là que tu dois rester. Ne sors pas, reste là, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. La personne, seule personne qui pourra t'aider, c'est moi. Alors je dis, mais c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui me parle. À ce moment-là, j'ouvre les yeux, je regarde, je vois les gens qui sont à côté de moi, je ne les connais pas. Et Karine est devant, elle était chante et tout. Je lui dis, c'est quoi? Bon, je dis, je ne comprends pas, je ne sais pas. Et peut-être c'est mon imagination. Bah, elle a les yeux fermés et tout. Et ce n'était pas mon imagination, parce que je me suis mariée en 2016. Et en 2017, début 2018, j'ai commencé à voir, parce que mon mari a eu deux enfants, nous n'avons pas eu d'enfants ensemble, mais il a eu deux grands garçons, qui vraiment, qui m'aimaient, moi je les aimais, parce que je ne peux pas aimer le père et ne pas aimer les enfants. Ce n'était pas un amour masqué, dont je m'obligeais de les aimer. C'était des enfants qui n'avaient pas de maman, leur mère était morte et tout. Donc j'avais porté mon affection sur ces enfants, et je les aimais, je faisais ce qu'une mère faisait pour ses enfants, en leur disant toujours, je ne suis pas votre maman, je ne vais pas la remplacer. Mais je vous considère comme mes enfants.
D'accord.
Et puis, il y a eu le mariage et tout, et bon, ben, ils ont compris que moi, j'étais là pour le bien de leur père et tout. Donc, ils se sont mis à me détester, puis commençaient à me chercher noise en... Et mon mari était un petit peu fatigué, malade. Ils ont cherché à faire tout ce qui n'était pas... À faire tout ce qui n'était pas... Qui n'était pas... Ben, je sais quoi. pour le faire renoncer au mariage et tout, aussi bien que je, la dispute était tellement profonde, tellement dure pour moi, que je leur ai dit, écoutez, moi, c'est la paix que je veux. Maintenant, si vous voulez que je divorce de votre papa, je le ferai, parce que c'est la paix que je veux. Je ne veux pas d'histoire. Je me suis mariée avec votre papa, c'est par amour. Mais maintenant, si vous pensez que moi, je suis venue pour tirer profit, eh bien, disons que vous n'avez rien compris, mais moi, si vous voulez, vous n'avez qu'à dire, demandez à votre papa s'il veut divorcer. S'il veut, moi, je renonce. Tant pis, ça fait rire. Mais je veux ma paix. C'est tout ce que je veux. Mais c'est le combat qui avait déjà commencé. Et puis, les choses ont empiré, empiré, empiré. Et il y a eu des procès en justice où j'ai été
accusée. Il y a eu des procès?
Ah oui, oui, oui. Il y a eu des procès où j'ai été... Ils ont voulu... Ils ont mis... mon mari sur curatelle sans mon consentement et sans le consentement de mon mari, donc ayant un fils qui est très avancé, qui avait un neveu, mon mari avait aussi un neveu.
Attends, on va résumer. Là, tu vas te marier avec celui que tu aimes, celui qui est ton mari, et les enfants au début t'ont bien reçu.
Ah, très bien reçu.
Mais après, ça s'est dégradé parce que les enfants pensaient que tu étais venu là pour un intérêt quelconque.
Oui, oui, oui.
D'accord. Et là, il y a eu procès. Ils t'ont mis en procès,
oui.
Quoi?
Il y a eu procès, oui.
Mm-hmm. Continue.
Il y a eu procès où ils ont voulu mettre leur papa sur curatelle disant qu'il fallait le protéger. Donc,
de toi?
Il fallait le protéger de moi, oui, parce que moi, j'étais venue là pour prendre son argent et tout, pour voilà. Et le père n'était pas d'accord du tout, mais bon, ben, comme il était fatigué, malade et tout, on revenait de France où je l'avais emmené pour se faire soigner et tout. Donc, il était tout fatigué et tout. Donc, c'est à ce moment-là où moi, je suis partie pour la mort d'une sœur. Ma soeur, une soeur qui est morte en France, donc je suis partie pour une semaine. Et à ce moment-là, ils ont profité pour faire venir un médecin et tout, et pour profiter pour le mettre sur, faire les papiers pour le mettre sur tutelle.
Mais comment est-ce que toi, tu as vécu tout ça de fait?
Alors
que,
moi, j'ai vécu tout
parce
ça.
Parce que toi, dans ton cœur, tu aimes ton mari.
Moi, j'aime mon mari.
Tu n'es pas là pour intérêt. Tu es...
Non.
D'autant plus que...
J'ai beaucoup souffert.
D'accord.
Je me suis mariée en 2016. Depuis 2018, 19, 20, 21. Jusqu'en 2000, je suis restée 5 ans à pleurer.
C'est un pleurer.
Je pleurais. Je vais pas, non, pas 5 ans, 2017, 18, oui, 2019. 4 ans à pleurer. Et je ne voulais pas dire ça à ma fille, parce que, ni à mes nièces et à mes neveux, parce que je me dis non, je ne veux pas qu'ils sachent ce que moi j'endure, parce que je ne veux pas que la famille se mêle et que les choses deviennent encore plus mauvaises. Donc je cachais.
Tu caches ta souffrance, quoi.
Je gardais ma souffrance pour moi. Et mon mari me disait toujours, mais non, ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. Ce ne sont pas les enfants qui vont me dire ce que je dois faire. Ne t'inquiète pas.
Mm-hmm.
Et moi, bon. Et puis, c'est à ce moment-là, quand je suis retourné, j'allais au culte tous les dimanches, et j'ai compris pourquoi j'avais entendu cette voix qui me disait que tu auras beaucoup, beaucoup de déboires dans ta vie et la seule personne qui pourra t'aider, c'est moi. J'ai dit, ah, j'ai compris. Aujourd'hui, je comprends ce que cette voix voulait me dire, voulait me mettre en garde. Et heureusement, je n'ai pas fait de marche arrière. Au contraire, j'ai laissé l'Église, la religion catholique, les catholiques, et là, je suis venu au culte. Et je ne me mariais pas un dimanche. J'étais là tout le temps, j'étais là. Et quand la semaine commençait, je me disais, oui, vivement que dimanche arrivait.
D'accord.
Il fallait mettre mes plus beaux habits pour y aller. Pour moi, c'était un jour important. Tellement
d'accord.
que je me sentais bien. Et puis, les choses ont commencé à allait mal et tout. Et un jour, je me rappelle, tu as dit, bon, il y aura un baptême, bientôt. Quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Christ? Chaque fois je me lève, je vais. Je dis, moi, je me lève, je vais. Mais quand arrive le jour pour aller, pour se faire baptiser, non, je reste derrière, non, c'est pas ce jour-là, je ne vais pas.
Tu n'es pas encore prête.
Je ne vais pas, je ne suis pas encore prête. Je reste là, je ne dis rien, mais à chaque fois, oui, je veux donner ma vie, mais quand le jour arrive, je ne suis pas encore prête. Et puis, un beau jour, je me lève, je dis, bon, je suis prête, je vais. Et tu dis, bon, les gens qui ont choisi de donner leur vie à Christ, le baptême, ça sera dimanche. Donc, le dimanche d'après, donc je ne peux pas faire mon choix. Et j'ai dit, bon, mais comment ça, c'est ce dimanche-là? Je croyais que c'était dans un mois, deux mois. Alors, Karine me dit, ah non, maman, c'est ce dimanche-là. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu appelles le pasteur, tu repousses. Je dis, non, j'attends dimanche, je verrai. Mais, et le samedi, je dis, non, je me suis préparé, j'ai fait mon linge, j'ai fait ma robe, j'ai fait serviette, tout était prêt pour moi et tout. Et le dimanche, je suis allée me faire baptiser. C'était à Chelcher, oui, c'est à Chelcher qu'on avait été. Eh bien, ce jour-là, quand j'ai fini, après le baptême, je me suis dit, Seigneur, je suis venu, je dis que je suis venu trop tard. J'ai répondu trop tard à ton appel, mais je sais que même si moi je dis que c'est trop tard, mais pour toi, l'heure n'était pas venue. L'heure est arrivée, j'ai dit, mon Dieu, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir, de ne pas t'avoir donné ma vie.
Plus tôt,
oui. Mm-hmm. C'est le seul regret que j'ai, parce que je suis bien. Et avec ça, j'ai pu supporter. Et là, je me suis mise à prier. Alors, je n'étais plus seule, parce qu'il y avait les sœurs, il y avait les frères, et il y avait le pasteur, il y avait les autres qui priaient avec moi, parce que j'avais raconté à ce moment-là par quoi je passais, et on a prié avec moi, et il n'y a pas un combat que je n'ai pas rapporté.
D'accord.
Il n'y a pas une victoire que je n'ai pas rapportée. La première victoire, ça a été, on a voulu le mettre sur tutelle, on ne l'a pas mis sur tutelle, le fils a voulu que c'est lui qu'on donne, qu'il soit le tuteur, le juge a dit non, c'est son épouse. Et jusqu'à la mort, j'ai été sa tutrice. Et après, quand ils ont vu qu'ils n'ont pas gagné par là, ils m'ont attaqué moi-même en disant que j'ai pris de l'argent, que j'ai ouvert un autre compte, que j'ai versé de l'argent. J'ai eu un comptable expert, que le juge a désigné pour aller dans mes comptes, les comptes de ma fille et tout. L'expert, quand nous sommes allés chez l'expert m'a demandé, madame, est-ce que vous êtes prête? Je lui ai dit, oui, vous faites pourquoi? Est-ce que, je dis, mais bien sûr, vous pouvez faire votre enquête. Mais je n'ai rien à me reprocher. Il m'a demandé, vous êtes tranquille? Je lui ai dit, je ne peux pas être plus tranquille et plus sereine que ça. Je suis tranquille, faites votre travail. Je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin. Effectivement, tous les papiers qu'il m'a demandé, j'ai donné tout. Et quand ça s'est terminé, j'ai été, parce que c'est tous les deux mois que j'allais au tribunal, et tous les deux mois j'étais auditionné.
Ah ouais.
J'étais auditionné tous les deux mois.
Mais dans quel état tu étais dans ces moments-là? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu un ras-le-bol d'être tout le temps comme ça au procès, d'être tout le temps comme au tribunal?
Ah oui, il y a un moment où j'ai eu un ras-le-bol. Mais, parce qu'au début, j'allais avec la peur au ventre, je pleurais. Mais quand on demande quelque chose au Seigneur, et que tu sais que Dieu, il est avec toi, et que ce que tu lui demandes, il te l'accorde, parce que Dieu voit, Dieu connaît, il connaît les cœurs. Donc, il est là pour nous aider. Et avec ça, j'ai eu une force, avec la prière, avec tout, j'ai eu une force. Et ce jour-là, c'est ce jour où, quand j'ai eu le ras-le-bol devant le juge et tout, et où j'ai dit à mon beau-fils qui était là avec son avocat et tout, qui m'a traité de voleuse et de ci et de ça, je lui ai dit, écoute, j'ai demandé au juge, est-ce que je peux parler? Et le juge m'a dit, oui, madame Duzbeck, vous pouvez parler. Dites ce que vous avez à dire, je vous écoute. Je lui ai dit, je voudrais parler. Je parle à mon beau-fils ici présent. Je lui dis, là maintenant, je te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour enterrer la hache de guerre? Parce que je n'ai plus 20 ans. J'avais 73 ans. Je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai 73... Là, cette année, j'ai 73 ans. Qu'est-ce que tu veux pour enterrer cette hache de guerre, cette haine que tu as contre moi? Parce que moi, je ne t'en veux pas. Je n'ai rien contre toi. Mais je voudrais que tu me dises, qu'est-ce que tu veux? Parce que je suis fatiguée de monter, de descendre ici, dans ce tribunal. Ton papa, il est fatigué de monter, de descendre les escaliers, monter, descendre l'ascenseur. C'est pas ce qu'il nous faut maintenant. C'est pas ce qu'il nous faut. Mm-hmm. Alors dis-moi ce que tu veux.
Ah, parce que il n'a pas répondu. Parce que ton mari était présent, enfin, celui qui devait
être... Ah oui, il était présent, il n'était pas concerné. D'accord. Mais il était présent par Lisette. Alors il lui a dit, mais monsieur Lisette, on n'était pas obligé d'être venu. Et il répondait, ma femme là où ma femme est, moi je dois être aussi. Je dois être avec elle.
Ah ouais.
Mon devoir, c'est de l'épauler, d'être à côté, à ses côtés.
Ça a dû toucher le juge, ça.
Toujours avec elle.
Ça a dû toucher le juge, ça.
Ah, ça l'a touché. Mais il a dit, et là, il a dit au juge, écoutez, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Parce que mes enfants, ils sont là. Ce sont eux qui sont là pour mon argent. Mm-mm. Mais mon épouse, non. Et là, il a dit que non. Parce que je vais dire ici ce que je n'ai jamais dit à personne. Parce que moi, ce que j'ai connu, ce que je connais avec cette femme qui est maintenant mon épouse, le bonheur que je connais, je ne l'ai pas connu avec ma première femme. Je ne l'ai pas connu. Ce qu'elle fait pour moi là maintenant, je n'ai jamais connu ça quand j'étais mariée avec ma première femme.
Mmh. Mon Dieu,
alors
c'était...
pour moi, c'est une perle que j'ai. Une perle que j'ai.
Alors, je pense que le procès a dû s'arrêter là.
J'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle. Elle a confiance en moi. J'ai confiance en elle. Parce que quand on s'est marié, il m'a dit, je ne me marie pas sur le régime de... Je ne fais pas de contrat. S'il faut faire un contrat, je ne me marie pas. Parce que si je veux marier avec toi, je te fais confiance, tu me fais confiance. Ce que j'ai t'appartient. Je dis, moi aussi, ce que j'ai aussi t'appartient. Alors il m'a dit, non, si tu veux qu'on fasse... Je lui dis, mais tu as des enfants. Il m'a dit, si tu veux qu'on fasse un contrat, on ne se marie plus. On reste comme ça, on vit comme ça, on ne se marie plus.
Il t'a dit que si tu veux qu'on fasse un contrat, il ne veut plus se marier.
Non, il ne veut pas faire de contrat.
D'accord, c'est ce que je te dis. Il a dit que lui ne voulait pas faire de contrat de mariage.
Non, et moi, ayant ses enfants, voulant, je lui ai dit non, qu'il faut faire un contrat parce que tu as des enfants. Il m'a dit non. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé pour moi. Mes enfants n'ont pas travaillé avec moi. Je t'ai choisi comme deuxième, comme épouse. C'est pas pour me protéger de mes biens ni quoi que ce soit. D'accord. Ce que j'ai, c'est à toi.
Et
je te fais confiance.
Et quand ton mari t'a dit ça, tu as le cœur réchauffé, ou bien tu es anxieuse ou...
Ah non, je ne suis pas anxieuse. Je dis, mais je, enfin, anxieuse, je me dis, mon Dieu, mais comment les choses vont se passer? Parce que quand tu te maries, que tu arrives à la mairie, et quand tu entends, quand on dit, il ne s'est pas marié sur contrat, sur le régime de la communauté, les enfants qui sont là, ça leur fait un coup. Et moi, ce que j'ai fait avant, 3 jours avant le mariage, parce qu'il y a un fils qui était là-bas, qui était venu pour le mariage et tout, je l'ai appelé à part, je lui ai dit, voilà, j'ai quelque chose à te dire. ton père et moi, on a dit, il m'a dit oui, il y a longtemps que vous êtes bien, moi, ben, je vous ai donné ma bénédiction, pour que, moi, je suis contente que vous vous mariez là. Mais je lui ai dit, il y a quelque chose que je veux te dire, je veux que tu le saches avant. C'est toi l'aîné, ton père n'a pas voulu se marier sur contrat. Tout ce que je lui ai dit, il n'a pas voulu, il m'a dit non, qu'il se marie sur le régime de la communauté. S'il faut faire un contrat, qu'il ne se marie plus. Alors voilà. Alors il me dit, mais papa, il est assez grand, il sait ce qu'il fait, hein, donc je n'ai pas à revenir sur sa décision. Voilà ce qui m'a été répondu.
D'accord.
Et puis voilà dans ce que je me suis retrouvée. Dans ce que je me suis retrouvée.
D'accord.
Et ça a duré. Et ça a duré jusqu'en 2021, où l'expert a donné son compte rendu et il a dit, je n'ai rien trouvé comme je n'ai rien retrouvé comme faute. Je n'ai pas trouvé de compte et de compte sur lequel madame aurait pu mettre de l'argent. Je n'ai pas trouvé de fraude. Je n'ai rien trouvé du tout. Tout est net. Voilà, tout est net et clair. Et quand le fils a entendu ça, il a dit, il n'a rien dit. Il a dit, ah bon, il n'a rien dit. Et l'avocat, son avocat qui était là, a dit, mais oui, mais il y a quand même des sorties d'argent. Et mon mari a répondu, je vous fais remarquer qu'avant que je ne sois mariée, chaque semaine, j'enlevais une somme d'argent. Et j'ai toujours gardé ce rythme-là. Mon argent m'appartient, je fais ce que je veux avec. Ce n'est pas à vous qui êtes mes enfants qui allez me dire maintenant comment je dois dépenser mon argent. Je fais ce que je veux avec. Voilà.
Donc,
et quand
donc...
il a vu qu'ils n'ont pas, ils ont pas eu gain de cause, à ce moment-là, eh ben, les choses se sont calmées. Il s'est calmé un peu. Et à chaque fois, moi, je pense que lui, il avait rejeté son père. Hein.
Ouais.
Il y a un fils qui avait complètement rejeté son père parce que moi, j'avais gagné et tout. Alors, en fait, pas moi, j'avais gagné. On n'avait pas retrouvé de faute de quoi, voilà. Pouvant m'accuser.
Pouvant t'incriminer.
M'incriminer, voilà. Et là, il s'était retourné contre son père. Et le père ne voulait pas de lui. Parce que quand on sortait, que lui, il était là, il venait pour donner la main à son père. Et son père lui disait, non. Laisse-moi. J'ai mon épouse, elle va s'occuper de moi. Ne me donne pas la main, je ne veux pas de ta main.
Mmh.
Et moi, j'allais vers le fils, je lui disais, mais non. Tu connais ton papa, tu sais, c'est comme ça qu'il est. Mais sache que, même quel que soit ce qui s'est passé, je ne veux plus entendre parler du passé. Alors, finissons avec ça. Vivons comme une famille. Une famille, parce que moi, malgré tout, je vous aime. Je ne peux pas vous haïr. Finissons-en avec ça. Je ne peux pas te haïr. Je ne peux pas. J'aime ton père. Je ne peux pas te haïr. Mais bon, ben, vous avez fait ça, voilà. Peut-être que si c'était ma fille qui était dans, peut-être qu'elle aurait fait la même chose, je ne sais pas. Mais je ne veux pas vous haïr pour ça. Je te pardonne. Je lui ai dit, je te pardonne. Du fond de mon cœur, je te pardonne. Et il m'a tenu les mains. Il m'a dit merci. Il m'a dit merci. Et là, les choses se sont calmées. Parce que le père, parce que quand le père, il faut dire que le père a été malade. Et il est mort d'une maladie foudroyante. Parce qu'il est resté 1 an, 9 mois en soins intensifs avec moi. Ne sortant pas, ne faisant rien du tout, qu'on est resté avec lui.
Donc il est resté quasiment, tu dis, 1 an et 9 mois.
Il est resté 9 mois.
Malade chez toi.
9 mois à la maison avec moi parce que il n'y avait plus rien à faire pour lui. C'était le mettre à l'hôpital ou bien le garder à la maison. Soins intensifs, c'est à la maison.
Et il est décédé. Mais j'aimerais revenir avec toi sur une petite parenthèse où je me souviens que tu me racontais une fois la manière que vous vous êtes retrouvés toi et ton mari, la manière que vous
vous
êtes retrouvés.
Ça, c'est...
Parce que tu as, là, tu l'as occulté. Je dois te rien dire. Mais...
mon mari, j'ai connu mon mari. Mm-hmm. J'avais 20 ans quand je l'ai connu. Mm-hmm. Lui, il n'était pas marié encore. Et je l'ai connu, mais après, et puis il est allé vers la mère de sa première épouse. Il a connu, il est allé vers cette femme, et bon, il m'a laissé. Et il s'est marié avec elle, mais moi, je ne savais pas qu'il s'était marié. Et on continue à se voir, mais moi, je ne savais pas qu'il était marié. Et un jour, je vois qu'il vient à ma rencontre au travail et tout, parce que comme il partait, il voyageait et tout, donc ne pouvons pas voyager, parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas partir comme ça avec quelqu'un dont la famille n'avait pas encore donné son accord et tout. Même s'il venait à la maison, il n'avait pas encore dit ce mot qu'on allait se marier et tout. C'était bon, je sais avec qui tu sors, voilà.
Il fallait qu'il vienne.
Pourquoi vous vous mariez? C'était
Attends, il fallait qu'il vienne demander la main avant, quoi.
Ah oui. Il n'y avait pas. Ah non, maman était trop dur, il n'y avait pas histoire de sortir, tu vas partir avec lui en voyage. Non. Donc, il allait, mais moi, je n'allais pas. Et c'est là qu'il a pu rencontrer sa première épouse, et puis comme il était enseignant, et elle était enseignante aussi, donc il se voyait tout le temps, et puis voilà. Et un jour, il vient à ma rencontre, et je le vois avec une alliance. Alors, je dis, mais comment ça? Ça ne fait pas d'alliance. Pourquoi tu as une alliance aujourd'hui? Pourquoi? Il me dit, non, je me suis mariée, je ne voulais pas te le dire. Je dis, ah bon, tu t'es mariée quand? Et il me dit, oui, je me suis mariée, mais je ne voulais pas te faire de la peine et tout. Alors, je lui dis, bon, mais tu sais quoi? Là, maintenant, c'est fini. Là maintenant, c'est fini. Là maintenant, on a fini. Et moi, je te donne ma décision. Je ne sors plus avec toi. C'est fini. Parce que dans ma famille, ma mère n'accepterait pas que je sorte avec quelqu'un qui est marié. Alors, tu as choisi quelqu'un d'autre. Reste avec elle, tu es marié avec elle, reste avec ton épouse. Je ne veux pas être celle qui va mettre le désordre dans ton ménage.
Tu veux pas être une femme concubine, quoi.
Même si ça me fait mal, mais laisse-moi. Et je suis descendue de sa voiture, on s'est quitté comme ça. Sans jamais se revoir et tout. Et puis pas le hasard, c'est Dieu qui fait. A fait qu'il achète une maison à Balata. Tout près de chez moi, parce que j'habite par là aussi. Il achète une maison tout près de chez moi. Pas tout près, enfin quelques kilomètres de chez moi. Et il est très fervent catholique aussi. Il vient à la messe, je suis à la croix, je le vois. Mais il est avec sa femme, ses enfants et tout, puisqu'il a eu des enfants, ça a fait du chemin. J'ai eu ma fille après. Je ne me suis pas occupée de lui du tout. Et c'est à partir du moment ou que sa femme est morte, j'ai entendu que aux obsèques, je dis, eh ben, un tel a perdu son épouse, eh ben, voilà, je ne savais pas qu'elle était malade et si et ça. Et quelques temps après, je vais au travail et je le rencontre sur ma route. Je lui dis, il me dit, eh ben, comment vas-tu? Voilà. Je dis, comment? Qu'est-ce que tu deviens? Je dis, ça va. Au contraire, je suis pressée. Il me dit, moi, je suis à la retraite maintenant. Je dis, non, mais moi, je ne suis pas à la retraite. Je travaille, je suis au travail. Au contraire, je suis en retard. Et il me dit, où tu travailles? Je dis, je travaille au dispensaire à la rue Gallieni. Et je suis pressée. Et il me dit, appelle-moi. Donne-moi ton numéro de téléphone. Je dis, bon. Il me dit, mon numéro est sur la ligne. Regarde sur la ligne, appelle-moi. Je n'appelle pas, moi. Je retourne au travail, je fais mon travail et tout, et voilà. Comme je travaillais avec les malades mentaux et tout, et on faisait des projets pour les malades et tout. Et moi, mon projet, c'était tous les jeunes qu'on avait, les jeunes qui étaient là, qui étaient malades, qui avaient leur bac et tout, c'était de les faire reprendre les études. Et l'hôpital n'ayant pas d'argent, avait, l'hôpital n'ayant pas d'argent, ne donnait pas beaucoup d'argent. Quand on faisait un projet, il fallait faire avec les moyens du bord. Alors je dis, le médecin-chef qui me dit, c'est un très beau projet, je le valide, mais il va nous manquer un enseignant. Maintenant, les gens ne veulent pas travailler, ne travaillent pas pour rien. Alors je lui dis, bon, ben, il y a quelqu'un que je connais, je vais lui demander s'il accepte, bon, on verra. Et je demande à Simon, celui qui était mon mari, je lui demande est-ce que ça l'intéresse, il me dit oui. Je lui dis est-ce que tu veux être payé, il me dit non, je fais ça gratuitement, pour toi, qu'est-ce que je ne ferai pas, et voilà. Et c'est parti, il est venu travailler avec moi. Tous les mercredis, il venait pour le mercredi et le vendredi, il venait avec les malades pour faire avec les, comment dirais-je, parce que le but c'était de les remettre de les refaire reprendre goût aux études. Donc voilà, chaque mercredi il venait faire des cours et tout, voilà. Et puis c'est parti comme ça, et c'est de là qu'on l'a renoué. Et puis on s'est marié. Il m'a dit non, mon épouse est morte. J'ai pas voulu te le dire. Je suis retournée 4 fois sur ton lieu de travail, là où je t'ai connu. Mais je ne t'ai pas vu. Je dis, mais tu ne m'aurais pas vu. Parce que j'ai fait du chemin. Et je travaille à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital en ce moment. J'étais aide-soignante à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital.
Donc,
on s'est mariés, puis voilà.
Est-ce qu'on peut dire que vraiment vous étiez destinés à vous rencontrer tous les deux? Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, moi, le destiné, c'est l'œuvre de Dieu.
Ah oui.
C'est Dieu. Cet union a été l'union de Dieu. Et c'est Dieu qui me l'a choisi. Parce que avant, il n'était pas malade, il était pied-portant et tout. Ah, et oui. Il a fallu que je rentre dans sa vie. Pour qu'il se jouait qu'il avait déjà des problèmes de vue et tout. Mais je l'ai accompagné, allant de médecin en médecin, allant à l'hôpital, allant, partant à Marseille, à Paris, partout avec lui. Et quand je partais, je n'allais pas pour me promener. J'étais à l'hôpital où je dormais avec lui à l'hôpital. Sans pouvoir descendre, pour acheter ni à boire ni à manger quoi que ce soit. J'étais comme quelqu'un qui était hospitalisé. Même en Martinique, quand il allait à la clinique et tout, j'étais là avec lui. Je ne l'ai jamais laissé. Je me suis dit, Seigneur, c'est parce qu'il avait, le Seigneur savait qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, parce qu'il allait être malade, et le Seigneur m'a choisi. Et je ne regrette pas. On a passé de moments merveilleux, et ça a été un époux formidable. Formidable, ah oui.
Ah oui.
Alors là, j'avais un époux formidable.
Parce que quand tu t'es.
Et lui, vas-y. La plus belle histoire, c'est parce que quand j'ai donné ma vie, parce que ça c'est important, quand j'ai donné ma vie à Christ.
J'allais te poser la question justement.
Quand j'ai donné ma vie à Christ, je pense que lui, il venait pas du tout, il voulait pas venir. Il m'a dit, tu peux aller faire tes affaires si tu veux, mais moi, je vais à la messe. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Je lui ai rien dit. J'ai pas fait d'histoire. J'ai dit, Seigneur, je te demande de toucher son cœur. Touche le Seigneur, je te demande de le toucher. Tout ce que je te demande, de le toucher. Et quand j'étais prête à aller le dimanche, le jeudi arrive. J'ai dit, mon Dieu, j'ai toujours pas dit à Simon que je vais me faire baptiser dimanche. Je dis, mais tu peux pas dormir à côté de ton mari et te lever le dimanche matin, partir, aller te faire baptiser, et tu retournes, ta bouche fermée et tout. C'est quelque chose de merveilleux que tout le monde doit vivre avec toi. C'est un jour spécial. Bon. Alors je dis, mon Dieu. Alors je lui dis, jeudi soir, je prends la décision. Je dis, non, il faut que je lui dise. Je dis, Simon, j'ai pris la décision. Dis-moi, je vais me faire baptiser. Il me dit, mais vas-y, tu as mon accord, vas-y. Je ne peux pas te dire de ne pas y aller, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je ne viendrai, ne me demande pas de venir avec toi pour t'accompagner, je ne viendrai pas. Mais si tu veux recevoir les gens ici, tu fais ce que tu veux, tu viens. Moi, je serai là, mais je ne viens pas avec toi. Je lui ai dit, non, ça ne fait rien, je ne te demande pas ça, tu fais ce que tu veux. Il m'a dit, mais tu as ma bénédiction, vas-y. Et je suis allée. Je continuais à aller au temple et tout, aller au culte. Lui, il venait pas. Un beau jour, je lui ai dit, bon, je vais. Il m'a dit, bon, ben, je lui ai dit, tu viens avec moi, je prépare ton linge pour demain, si Dieu veut. Tu viens avec moi, tu m'accompagnes au culte. Il m'a dit, bon, ben, tu es sûr, tu veux? Je lui ai dit, oui, accompagne-moi. Et il est venu. Il venait chaque dimanche et c'est lui qui m'a dit, bon, le culte, c'est pas à 10h. Oui, et tu es là en train de faire ton ménage là, la cuisine, tu viens pas te préparer. Je dis, mais non, je sais déjà ce que je fais. Habille-toi ton linge. Et il s'habillait et on partait au culte, ça a duré. Et puis, il y avait une petite qui était ici avec nous. Cette petite a donné, elle avait 9 ans. Elle a choisi de donner sa vie à Christ aussi à 9 ans. Mais c'est une amie qui était en difficulté, dont j'avais accueilli chez moi avec l'accord de mon mari et tout, avec sa petite fille. Et ils sont restés 2 ans avec nous. La maman a donné sa vie aussi à Christ parce qu'on allait au culte. Elle venait m'accompagner, puis elle a choisi, elle s'est fait baptiser. La petite s'est fait baptiser avant, la maman. Et mon mari qui était là toujours, la petite qui lui disait, papy, je vais me faire baptiser, viens avec moi. Et il lui disait, ben bon, d'accord, on va se baptiser tous les deux ensemble. Et quand la petite est prête pour aller se faire baptiser, elle lui dit, non, 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 je ne suis pas prête. Un beau jour, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, où il est venu, il a dit oui, qu'il veut donner sa vie à Christ.
Je me souviens de ça, effectivement.
Pendant deux fois, nous sommes allés près de la mer avec lui. Quand il est arrivé, non, 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 je ne veux pas, je ne suis pas prête. Pendant deux fois. Ce que je n'ai pas entendu. Je dis, bon, Satan, ou faille des fois, mais ou pas qu'il faille 3 fois. On retourne. Et tu me dis, mais non, laisse-le, on va, faut pas le forcer, laisse-le, il veut pas, il veut pas. Et la troisième fois, il m'a dit, bon, c'était au mois d'octobre, il m'a dit, bon, un midi, on était en train de manger, on a fini de manger, et on reste là en train de discuter après le repas. Il me dit, Maria, tu sais, je veux me faire baptiser. Je dis, ah bon? Ou pas, vous faire pour baptiser ou quoi, choisir mon Dieu, je dis, ah. Il me dit, oui, c'est décidé. Appelle Daniel pour moi, Dieu pasteur. Il m'a dit, non, je n'ai pas fait ni moi d'abord. Mais je demande ça, alors que fait vous-même, ou que parler de pasteur, ou que parler de Daniel, mais je n'ai pas qu'à parler de bon. Comme ça, je dis. Il m'a dit, mais il m'a dit, non, ou quoi, je n'ai pas bon téléphone, ou quoi, parler de mais demande ça, je n'ai pas qu'à faire bon. Alors, je t'appelle. Et il te dit, effectivement, dimanche, je veux être baptisé. Est-ce que tu lui as dit, oui, il n'y avait pas de baptême. C'était le seul baptême. Il a choisi, c'était un dimanche ou un samedi, je crois. Un samedi après-midi, un samedi qu'il avait choisi. Mmh. Et ce jour-là, il est venu. Et ce jour-là, tu n'étais pas là. Il y avait quelque chose, tu n'étais pas là. Il y avait, mon Dieu, comment il s'appelle? Celui qui joue la guitare là, comment ça
Jean-Louis
qui était là avec et puis Karine et puis d'autres qui étaient là. Et c'est ce jour-là, il a été baptisé et il était très 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 content.
Homme heureux.
Et il était heureux. Et ça m'a beaucoup ému. Quand j'ai vu ça, j'ai dit vraiment Seigneur, merci. Là maintenant, je sais que tous les deux, nous sommes avec toi. Nous tenons par la main et nous sommes avec toi. Nous avons choisi. Tous les deux, nous t'avons choisi.
C'est merveilleux, hein, c'est vraiment merveilleux.
Nous marchons tous les deux. Et quand il a commencé à être malade, il ne se levait pas beaucoup, des fois il était fatigué, chaque après-midi, comme il était devenu aveugle et tout, malvoyant, donc il fallait choisir, prendre la Bible, choisir une lecture et puis faire lire soit Marc, soit Luc, ou bien il fallait choisir une lecture, lire, et puis on méditait. On méditait pendant peut-être une demi-heure. Et après, il me disait, je lui disais, qu'est-ce que tu veux maintenant? Et bien, il me disait, bon, ben on va louer, on va chanter. Et là, on se mettait tous les deux. J'étais assis près de lui, et lui couché, moi assis près de lui. Et on se mettait à chanter, à louer, de 15h30. Et on finissait à 16h, 16h30. Et il était content et heureux parce qu'il y a une chanson qu'il aimait beaucoup. C'était, comment ça s'appelle encore? La chanson de... où tous les jours il fallait qu'il chante ça. Et...
Un jour à la fois, non?
Non, pas un jour à la fois. Et aïe. Eh bien, comment j'oublie cette chanson?
Ah, ça arrive, ma soeur. Hein?
Bon, ça va me revenir. Ouais. On vient. J'ai oublié. Donc, il aimait beaucoup ça. Et lui, tous les jours, il fallait qu'on chante ça, il fallait qu'on le chante. Et puis, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a beaucoup aidé de supporter ces 9 mois avec lui parce que j'avais des sœurs, un frère, le frère Daniel et son épouse, et une autre sœur qui venait tous les mercredis prier avec moi, avec lui, avec nous, tous les mercredis. Et toi, quand tu pouvais, quand tu étais disponible, tu le faisais, tu venais prier avec lui, avec nous. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi...
Non, mais la partie où il était malade, pendant tout le temps, il était malade avec toi, c'était des moments assez fatigants pour toi en tant qu'humaine.
C'était des moments fatigants. Oui. Mais que je ne voyais pas. Parce que moi, j'étais comme une automate, c'était lui, il fallait s'occuper de lui. Et c'est vrai que j'avais des nuits sans sommeil. Je ne dormais pas parce que le soir, il se levait et il chutait, il tombait. Et étant seul, bon, des fois, il fallait le ramasser. Et une fois, je crois que, parce que j'étais tellement fatiguée, je me suis levée, je ne sais pas comment j'ai fait. Et je suis tombée.
Tu es tombée?
Je suis tombée, oui. Je me suis levée, je suis tombée.
Fatigue?
J'étais peut-être fatiguée, ou j'allais aux toilettes, je ne sais pas comment. J'ai eu une petite absence et je suis tombée. Et lui était couché, parce qu'il avait son lit médicalisé, mais le lit médicalisé était dans ma chambre, dans notre chambre, à côté de notre lit. Je n'ai pas voulu le mettre ailleurs. Je dis, je fais une place, mais il va rester là. Je ne le mets pas ailleurs. Là où je suis, il reste là. On ne va pas dormir sur le même lit puisque, à cause de. Pour le confort des infirmiers et tout, il faut qu'il ait un lit médicalisé, même pour lui. Donc, mais ce lit, il restera là, dans ma chambre, dans notre chambre. Et ça a duré. Et ce soir-là, je suis tombée. Lui, il entend, il me dit, Maria, tu es tombée. Je dis, oui, je suis tombée. Il me dit, attends, non, je vais te relever. Je dis, mais non, tu ne pourras pas me relever. Je fais la lumière et lui il s'assied au bord du lit, il se penche, il me tient la main, il relève ma tête, il me dit donne-moi la main. Je dis mais non, je vais te jeter Simon, tu pourras pas. Il me dit oui, tiens le lit, je tiens une main. Et il a passé ses mains sur mon épaule et c'est lui qui m'a mis debout. Je n'oublierai jamais ce jour-là, il était déjà malade.
D'accord, mais dis-moi, comment tu l'as senti spirituellement dans les derniers jours, dans les derniers moments où il est parti, avant qu'il ne parte?
Alors, le dernier jour où il est parti, il m'a dit... comment il m'a dit ça? J'ai vu qu'il était anxieux. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose qui te gêne? Il me dit, je vais partir. Je lui ai dit, tu vas partir pour aller où? Je vais partir, je t'ai dit que je vais partir. Je lui ai dit, tu vas partir pour aller où? Tu vas aller où? Tu veux aller rencontrer le Père, notre Père qui est là-haut, ou bien où tu veux aller? Tu vas rencontrer notre Père? Tu veux quoi? Tu veux partir, aller dans un autre pays? Dis-moi. Il dit, mais je vais partir. Je vais aller rencontrer papa. Je vais aller rencontrer mon Père. Je dis, ton Père, ton papa. Non, je t'ai dit que je pars. Je vais aller, je vais monter. Je lui dis, mais tu pars, tu ne vas pas me laisser seule quand même. Il me dit, je pars, je t'ai dit que je pars. Tu feras ce que tu voudras, mais moi je vais partir, je pars. Et depuis après ça, il a commencé à lâcher. Mais spirituellement, il avait une très, 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 très grande confiance et tout. Parce que lui, il fallait tout le temps, chaque fois que je rentrais dans la chambre, chaque fois que je venais, il fallait qu'il entonnait de l'orange. Une orange, il fallait faire quelque chose. Et il aimait tout. Et souvent, il chantait, non, jamais tout seul, jamais tu ne me laisseras seul. Il aimait beaucoup ça. Il chantait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'entendais fredonner, je l'entendais. Et puis, quand il a commencé à être plus fatigué que les autres jours, un jour, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui te gêne? Il y a quelque chose que tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, je ne veux de rien, mais je ne veux pas que tu souffres. Je dis, souffrir pourquoi? Je dis, mais non, tu sais très bien que si tu pars, je ne serai pas seule. Il y a Dieu qui est avec moi, hein, il est là, le Seigneur est avec moi, et puis je ne serai pas seule, pourquoi tu dis? Il m'a dit, non, mais je connais mes enfants, je ne veux pas que mes enfants te fassent souffrir. Je dis, mais non, t'inquiète pas. Tu me connais? Ils ne vont pas me faire souffrir. Je ne vais pas souffrir. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Occupe-toi que de toi, que de guérir, ou bien de te préparer pour aller. Tu m'as dit que tu vas partir, te préparer pour partir. Non, 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 ne t'inquiète pas. Et puis je lui ai dit, t'inquiète pas. Je vais m'occuper des enfants. Et ils ne me feront pas souffrir parce que je ne vais pas faire la guerre avec eux. Je ne vais pas faire la guerre avec eux. Au contraire, ne t'inquiète pas. Et puis, n'ayant plus de force et tout, donc chaque jour, il descendait. Et son dernier jour a été qu'il a apprécié parce qu'après, quand je suis rentrée dans la chambre, c'était le jour où il est mort, vers les 16 heures de l'après-midi, je dis à son fils, parce qu'on était dans la chambre en train de chanter, de louer et de prier avec lui et tout, et il chantait jusqu'à la dernière minute à chanter. Et je dis à son fils, je suis sorti, j'ai dit au fils, bon, écoute, là maintenant, tu viens avec moi. Voilà, je vais te laisser seul avec ton papa. C'est ton heure de rester seul avec ton papa. Tu vas parler avec lui. Si tu as des choses à lui dire, tu lui dis. Parce qu'il est très fatigué. C'est ton heure avec lui. Passe ton heure avec lui maintenant. C'est avec lui. Alors il me répond, mais tu as toujours été là avec lui. Viens avec moi, ne me laisse pas seul avec lui. Je dis non, il est arrivé un moment où tu dois être seul avec lui. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu as à lui dire et ce qu'il a à te dire. Je n'ai pas besoin d'entendre. C'est votre moment à vous. J'ai refermé la porte de la chambre et je suis partie. Je l'ai laissé seul avec son père. 10 minutes après, il est revenu, les larmes aux yeux. Il m'a tenu, il m'a dit merci, merci, merci. Je dis bon, ben, c'était normal, hein, voilà. Et puis, il était là, il a pu assister à l'agonie de son père. Je lui ai dit, non, 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 tu ne pars pas, tu restes seul. Tu restes seul. Tu restes seul, tu ne pars pas. Parce qu'il a voulu partir. Je lui ai dit, non, non, non. Tu restes seul, tu restes avec moi, tu restes seul. Et puis voilà, les choses se sont passées comme ça. Et puis bon, ben. C'est là maintenant que je vois que je me suis complètement. Je suis complètement abandonnée moi-même parce que je ne me suis pas occupée de moi. Et là maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes de santé et grâce à Dieu, ça va mieux parce que le Seigneur est en train de me remettre à neuf. Ah. Tout neuf.
Il est en train de te remettre tout neuf.
Et j'ai beaucoup de
de contraintes qui m'empêchent de venir pour le culte du dimanche, parce que avec des problèmes de santé, c'est pas partout, chaque fois il faut que je vienne le voir. C'est une chose, c'est un petit peu gênant.
D'accord.
Mais il me remet à plein une fois que j'aurai repris. Je sais qu'il aura besoin de moi. Je ne sais pas encore ce qu'il va me donner comme mission, mais il aura besoin de moi, donc il est en train de me refaire à neuf là. Il ne regarde pas l'âge, quel que soit l'âge, il va me donner la force et je veux sauter, je veux courir comme l'aigle.
Ma Somaria, en souvenir de ton mari, en souvenir de tout ce que tu as traversé avec lui, je te fais écouter ce très beau titre que tu aimes tellement. Allez, tu es prête? On y va.
Oui, je suis prête.
Yes. Tu entends au moins, tu entends?
Oui, oui, oui.
D'accord. Quand mon cœur considère tout l'univers.
Tu peux chanter avec lui, hein.
Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Du soir, de tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être, alors s'élève chant. Sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour.
Amen.
Quand mon sauveur éclate de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai à son divin séjour. Oh, il n'est plus grand que ton amour, Seigneur.
Voilà, donc c'était un très beau chant que je voulais te faire écouter, puisque
merci.
Donc,
ah oui.
Ça te rappelle beaucoup de choses, n'est-ce pas?
Ah, ça me rappelle beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Ah, d'accord.
Beaucoup de choses. Et ce chant est sensé à quelque chose, ouais.
Ah ben, nous sommes contents de t'avoir reçu ici à la radio FM Espoir.
Moi, oui. Mais pour... bon, ce que nous avons besoin, je pouvais témoigner, je vais témoigner parce que j'ai tellement de choses à dire. J'en ai encore d'autres parce que ce que je suis en train de passer en ce moment, alors là, rien n'est aussi fort, rien ne peut m'aider que Dieu qui m'aide.
La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Donc, c'est normal que j'invite les enfants de Dieu à témoigner. Parce que témoigner, c'est donner gloire à Dieu. Hein. Témoigner, okay. c'est donner une bonne raclée au diable. Et il ne veut pas qu'on témoigne.
Oui, oui.
Et la Bible dit qu'ils ont vaincu.
Il ne veut pas qu'on entende dire que c'est Dieu qui a fait pour nous. Non.
Ah, il parlait sa pièce. Il parlait sa pièce.
Plus on cache ça, plus il se dit, ah ouais. T'as qu'à dire ça parce que t'as une confiance, si t'as senti, c'est pas mon Dieu qui fait, mais non. Tant que je peux témoigner, tant qu'on aura besoin de témoignages, j'en ai, je pourrais témoigner.
D'accord, mais merci Maria, merci beaucoup et à très bientôt. Donc,
c'est moi qui vous remercie, ça fait une bonne journée pour moi, je ne pensais pas que je témoignais devant, il y a des milliers de personnes qui m'écoutent, et bon, voilà.
Voilà, tu as pu témoigner et donner gloire à Dieu. Merci beaucoup.
J'ai donné gloire à Dieu. C'est moi qui j'ai été un petit peu par là, mais j'ai voulu tellement faire connaître la bonté de Dieu, ce que Dieu est capable de faire, que bon, ben, je prenais un petit peu par là, voilà, pour pouvoir tout dire. Mais je n'ai pas tout dit, et je suis là, je peux encore témoigner, je n'ai pas fini.
D'accord.
Et merci Seigneur, et merci à vous. Soyez tous bénis.
Merci Marie, à très bientôt. Dieu te bénisse. À bientôt.
Merci à toi aussi, à bientôt.
Bye bye.